VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mardi 19 juillet 2022. Bonjour à toutes et à tous. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia. Les titres pour commencer. En République démocratique du Congo, 10 civils ont été tués en 3 jours par des rebelles ADF dans le nord-est du pays. Au Mali, appel de la junte à une médiation du Togo dans l'affaire des 49 militaires ivoiriens détenus depuis plus d'une semaine à Bamako. Au Soudan, barricades et routes bloquées à travers le pays après un conflit tribal. Au Maroc, première visite officielle d'un chef de l'armée israélienne dans le cadre de la coopération grandissante entre l'État hébreu et le royaume chérifien. Téhéran accueille le président russe Vladimir Poutine et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan pour discuter de la Syrie et de l'Ukraine. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. En RDC, 10 civils ont été tués ces derniers jours dans des attaques attribuées aux rebelles des forces démocratiques alliées dans le nord-est, où l'armée a affirmé hier avoir tué 22 rebelles. Yacouba Ouédraogo.
Nous avons découvert 8 corps des civils tués par ces ADF après l'attaque menée dimanche en Dimo, en Ituri, a déclaré Dieudonné Malangé, un responsable de la société civile de la chefferie de Wallissa, Vonkutu. Selon lui, 2 autres civils ont été tués samedi dans la localité voisine d'Otmaber par des combattants ADF qui ont aussi incendié 2 véhicules et 10 de maisons. Les forces armées maîtrisent la situation en Dimo, Mongé, Otmaber et Epanza, a affirmé le lieutenant Jules Longongo, porte-parole de l'armée, ajoutant qu'en une semaine d'offensive, l'armée a neutralisé 22 éléments ADF. Présentés par l'organisation État islamique comme sa branche en Afrique centrale, les ADF sont accusés d'avoir massacré des milliers de civils. Depuis fin novembre 2021, les forces armées congolaises et ougandaises mènent des opérations conjointes pour tenter de les neutraliser dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, placées sous état de siège depuis mai 2021.
La junte malienne a appelé hier à une médiation du Togo, qu'il a acceptée, pour un dénouement heureux de la situation qui concerne les 49 militaires ivoiriens détenus depuis 8 jours à Bamako. C'est ce qu'ont indiqué les ministres des Affaires étrangères des 2 pays. La Côte d'Ivoire avait demandé mardi la libération sans délai de ses 49 militaires arrêté injustement le 10 juillet à l'aéroport de Bamako et accusé par les autorités maliennes d'être des mercenaires cherchant à déstabiliser le pays. Selon les Ivoiriens, la présence des 49 militaires dans le cadre d'opérations de soutien logistique à la mission des Nations Unies au Mali était bien connue des autorités maliennes. Au Togo, le gouvernement décide d'une nouvelle hausse des prix des produits pétroliers à partir de ce 19 juillet, nous signale notre correspondant Kossi Wousou, citant un arrêté interministériel des responsables du commerce, de l'énergie et de l'économie et des finances. La dernière révision à la hausse des prix des produits pétroliers à la pompe remonte au 10 mai 2022. Au Soudan, des milliers de Hausa ont monté hier des barricades et attaqué des bâtiments publics dans plusieurs villes du pays. Ils appellent à manifester aujourd'hui à Khartoum. Les détails avec Nanit Talani.
Le gouverneur de l'état du Nil bleu, Ahmed Al-Omda, qui a déjà imposé un couvre-feu nocturne et une interdiction des rassemblements pour 1 mois, a promis hier lundi de traiter avec une main de fer ceux qui incitent à la haine. À Kassala, dans l'Est, le gouvernorat a décrété une interdiction de rassemblement. Plusieurs milliers de Hausa ont incendié une partie des locaux du gouvernement local, des administrations et des magasins. Ils ont bloqué les routes en brandissant des bâtons. À Wad Madani, au sud de Khartoum, des centaines de Hausa ont monté des barricades de pierres et de pneus brûlés sur le principal pont et bloquent la circulation. La violence a éclaté il y a 1 semaine dans l'état du Nil bleu, frontalier avec l'Éthiopie, entre des agriculteurs Hausa et une autre ethnie, les Bartis. Les Haoussa se disent lésés et réclament la formation d'une autorité locale qui superviserait l'accès aux terres et à l'eau. Les Bartis se disent propriétaires de la terre et refusent tout passage. Khartoum a envoyé des renforts depuis dimanche pour tenter de maintenir un calme précaire.
Le chef de l'armée israélienne, Aviv Kochavi, est arrivé hier au Maroc pour des entretiens avec de hauts responsables militaires dans le cadre de la coopération entre les deux États, Jacques Aristide.
Il s'agit de la première visite officielle par un chef d'état-major d'Israël dans le royaume chérifien. Au cours de son déplacement de 3 jours, le général Aviv Kochavi a prévu de rencontrer Abdelatif Loudi, ministre délégué chargé de la défense, le lieutenant-général Belkeir Al-Farouk, inspecteur général des forces royales marocaines et des responsables militaires et sécuritaires, selon un porte-parole israélien. Le rapprochement entre le Maroc et Israël s'est accéléré depuis la normalisation opérée en décembre 2020 dans le cadre des accords d'Abraham, un processus entre l'État hébreu et plusieurs pays arabes soutenus par Washington. Ainsi, pour la première fois, des observateurs militaires israéliens ont participé à la fin du mois dernier à l'exercice militaire African Lion 2022, le plus large sur le continent africain, co-organisé par le Maroc et les États-Unis. En mars, une délégation de hauts gradés israéliens avait effectué une visite discrète au Maroc, là encore une première, qui avait abouti à la signature d'un accord de coopération envisageant la création d'une commission militaire mixte.
Un Chinois accusé de racisme et d'exploitation de mineurs au Malawi a été traduit en justice hier pour trafic d'êtres humains devant un tribunal de la capitale Lilongwe, ont rapporté les médias locaux. Ce Chinois, Lu Ke, 26 ans, est accusé d'avoir filmé des enfants dans des villages du Malawi en leur faisant prononcer en chinois des commentaires racistes sur eux-mêmes qu'ils ne comprenaient pas. Lu Ke vendait ensuite ses vidéos sur les réseaux sociaux chinois. Les autorités de la RDC ont décidé hier la mise aux enchères à partir du 28 juillet de 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers. C'est ce qu'a déclaré Didier Boudimbou, ministre des Hydrocarbures. Kinshasa fait ainsi fi des critiques de Greenpeace, notamment dans la cuvette centrale, où l'ONG craint des conséquences catastrophiques sur les communautés riveraines, la biodiversité et le climat mondial. Ce que rejette la ministre congolaise de l'Environnement, Eve Bazaïba. Pendant ce temps, au Rwanda, des délégués de tout le continent africain ont entamé lundi des discussions à Kigali à l'occasion du premier congrès africain dédié au rôle des aires protégées dans l'avenir de la planète.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Réunion ce mardi à Téhéran entre les présidents iraniens, russes et turcs pour des discussions axées principalement sur le conflit en Syrie, mais aussi sur la guerre en Ukraine et ses retombées sur les économies mondiales. Il s'agit du premier sommet présidé par Ibrahim Raisi depuis son arrivée au pouvoir il y a un an et du deuxième déplacement à l'étranger de Vladimir Poutine depuis le lancement de son offensive en Ukraine le 24 février. La réunion tripartite Poutine-Raisi-Erdogan intervient quelques jours après la tournée du président américain Joe Biden au Moyen-Orient, où il s'est rendu en Israël et en Arabie Saoudite, deux pays hostiles à l'Iran. 6 personnes ont été tuées lors d'un bombardement lundi sur Torest, lors de la chute d'un obus sur un immeuble d'habitation dans cette ville d'environ 30 000 habitants dans la région de Donetsk, l'une des deux provinces du Donbass que Moscou cherche à conquérir en totalité. Au Sri Lanka, les candidats, 3 candidats, ont été sélectionnés aujourd'hui pour remplacer, lors d'un vote secret mercredi, le président Gotabaya Rajapaksa, qui a démissionné la semaine dernière après avoir fui son pays suite à l'aggravation de la crise économique qu'il traverse. Il s'agit du président par intérim Ranil Wickremesinghe, de l'ex-ministre de l'Éducation Dallas Alla Haperuma, un dissident du parti au pouvoir appuyé par le principal leader de l'opposition, et du leader de gauche Anura Di Sanayake. La Minute Éco, Nathalie Barge.
Le président indonésien Joko Widodo, qui dirige actuellement le G20, compte inviter l'Union africaine à prendre part au sommet prévu en novembre à Bali, a annoncé la ministre des Finances Sri Mulyani Indrawati. L'initiative est conforme à l'ordre du jour des discussions du prochain sommet qui porte sur la gestion de la crise alimentaire et énergétique ayant durement frappé les pays pauvres, a précisé la ministre indonésienne. Dans un communiqué, le groupe United Bank for Africa annonce lancer ses opérations bancaires au Centre financier international de Dubaï, aux Émirats arabes unis. Sa présence au Moyen-Orient facilitera l'accès des investisseurs du Golfe au marché africain. UBA offre des services bancaires à 25 millions de clients dans 20 pays africains, au Royaume-Uni, aux États-Unis et en France. La Société des eaux minérales du Cameroun a réalisé un bénéfice net de plus de 872 millions de francs CFA en 2021, indique l'entreprise, précisant avoir vendu 100 millions de litres l'an dernier, une augmentation de 10% par rapport à 2020. La société source du pays SA reste toutefois leader sur le marché au Cameroun avec son eau minérale Supermont distribuée au Gabon, au Nigeria, au Sénégal et en Guinée équatoriale.
Merci Nathalie. Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Athlétisme pour commencer avec les championnats du monde qui ont lieu à Eugene, ici aux États-Unis.
L'Afrique compte des médailles après 4 jours de compétition. Hier lundi, l'Éthiopienne Gotitom Gebreselassie a été sacrée championne du monde du marathon en 2h18:11, record personnel devant la Kenyane Judith Cheptoum courir et l'Israélienne Luna Shemtai. À 27 ans, Gebreselassie s'offre son premier titre majeur avec un record des championnats du monde au lendemain de la victoire déjà éthiopienne dans le marathon masculin avec Tamirat Tola. Chez les hommes, dans le 10 000 mètres, l'Ougandais Joshua Cheptegei est resté le patron du Fonds international avec une victoire sur l'épreuve, son deuxième titre mondial consécutif, recordman du monde de la distance depuis octobre 2020. Cheptegei s'est imposé en 27:27.43. Le jeune Kenyan Stanley Mburu, 22 ans, a créé la surprise en prenant l'argent pour valider un premier podium international devant son compatriote Jacob Kiplomo, 21 ans, médaillé de bronze olympique.
Football, la finale de la CAN féminine Maroc 2022 opposera l'Afrique du Sud aux pays hôtes.
Coup de tonnerre, le champion en titre nigérian est out. En demi-finale hier, les Lionnes marocaines, qui n'avaient jamais passé la phase de poule d'une CAN féminine, ont battu les Super Falcons nigérianes au tir au but, 5 tirs réussis contre 4 après un score de 1 but partout à l'issue du temps réglementaire et des prolongations. En finale samedi 23 juillet, elles affronteront les Bayana Bayana sud-africaines finalistes lors de la dernière édition et qui se sont imposées 1-0 devant la Zambie. À noter que ces 4 demi-finalistes seront les représentants du continent à la prochaine Coupe du monde féminine prévue en juillet-août 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande.
Victime de chantage, le Malien Cheikh Doucouré bénéficie du soutien de son coach.
L'entraîneur de Crystal Palace dit apporter son soutien à sa nouvelle recrue. Le milieu malien Cheikh Doucouré, venu de Lens, victime de chantage depuis sa signature dans le club anglais. Dimanche, l'avocat de Doucouré, Alexis Routman, a indiqué que le joueur et son entourage sont les cibles d'un chantage et de menaces d'extorsion venant de plusieurs personnes. Ces personnes affirment avec des preuves falsifiées que mon client aurait une double identité et demande le paiement d'une somme d'argent contre son silence, soutient l'avocat. Auteur d'une belle saison avec Lens, Cheikh Doucouré, 22 ans, a été transféré de Lens à Crystal Palace pour un montant estimé à environ 23 millions d'euros.
Le
Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Bénin, une statue de 30 mètres, érigée non loin de la présidence, sculptée depuis 2019 par l'artiste chinois Li Xiangkun, sera inaugurée pour la célébration de la fête de l'indépendance. Cette statue est au cœur d'une polémique entre Béninois et sur les réseaux sociaux. Les précisions de notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur, à Dandé.
Haute de 30 mètres, la statue de l'Amazone, qui serait la deuxième plus grande d'Afrique après celle de la Renaissance au Sénégal, fait couler beaucoup d'encre et de salive alors qu'elle n'est même pas encore inaugurée. Certains apprécient l'hommage à la femme béninoise, d'autres voient de l'argent jeté par les fenêtres qui aurait pu servir à autre chose.
Je l'ai vivement apprécié, moi, parce que ça nous rend hommage. Surtout à nous, les femmes qui nous battons depuis des luxes, cela nous rassure.
Et on a fait l'Amazone pour au nom de toutes les femmes battantes.
Beaucoup veulent savoir le nombre de millions que le gouvernement a injecté pour la réalisation de ce statut. Oui, c'est vrai. Le gouvernement doit nous donner des explications.
L'autre polémique est née d'une déclaration faite par Candide Azanahi, ancien ministre de la Défense de Patrice Talon. Il a déclaré que le nom donné à cette statue, je cite, est une grave méconnaissance de l'histoire du Bénin. Il souligne que c'est une inculture de prétendre qu'une Amazone peut figurer comme référent dans l'art identitaire du Bénin. Pour lui, cette statue doit être rasée parce qu'elle a tout d'injurieux, de dévalorisant pour la femme béninoise. Selon l'ancien ministre, Amazone signifie prostituée, une esplanade des prostituées en Afrique et c'est en République du Bénin, a-t-il déclaré. Pourtant, l'histoire répète que Béanzin, le dernier roi d'Abomey, avait une élite dans son armée composée de femmes qu'on a surnommées les Amazones. L'universitaire à la retraite, Henri Adi, trouve que la polémique est inutile parce que le mot Amazone désigne bien la bravoure et la grandeur des femmes béninoises.
Les femmes, elles ont joué leur rôle dans l'histoire. Ce que d'autres hommes n'auraient pas pu faire, elles ont fait ça. Elles ont été dignes, elles ont joué leur rôle en tant que femme guerrière. Personne ne vous dira qu'une femme amazone, c'est une femme prostituée. Je doute que vous ayez une connotation du genre en ce qui concerne ces femmes-là.
Le ministre de la Culture, Jean-Michel Abimbola, a souligné que le gouvernement se réjouit de l'intérêt que suscite la statue de l'Amazone, preuve que ces guerriers d'une autre époque font partie intégrante de l'histoire du Bénin. Selon lui, la statue de l'Amazone est un hommage à la grandeur de la femme béninoise.
Les béninoises, nos femmes, nos mères, nos filles d'hier qui ont su, avec courage et bravoure, défendre les frontières d'un royaume et qui tous les jours, à travers le marché, à travers leur engagement citoyen. Donc cette esplanade, oui, c'est une ode à la femme béninoise moderne.
Malgré ces précisions, les avis restent partagés sur le symbolisme de cette statue métallique ornée de bronze qui supplante le palais de la présidence. Toutes ces retrouvailles avec le passé interviennent au moment où la France, ancienne puissance coloniale, a commencé à rendre tous les objets pillés au palais de Béanzin, le dernier roi d'Abomey, mort en déportation à Alger. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
En Somalie, armés de téléphones mobiles, de trépieds et d'ordinateurs portables, l'équipe de Bilan Media, une start-up somalienne entièrement composée de femmes, a pour mission de briser le silence autour de la violence sexiste. La petite agence est une rareté dans ce pays conservateur et son nom Bilan veut dire « beauté » en Somalie. Elle est financée par le PNUD et opère depuis les bureaux de Dalsan, une station de télévision et radio populaire à Mogadiscio. Le point avec Dili Diko.
Nasrin Mohamed Ibrahim n'est pas en train de prendre un selfie, mais elle documente Mogadiscio sous un angle différent. Nasrin est la rédactrice en chef de Bilan Media, une start-up entièrement féminine couvrant des sujets que personne ne veut raconter. Elle parle des femmes. Écoutons Nasrin Mohamed Ibrahim.
Chez Bilan Media, nous nous concentrons sur les histoires qui sont cruciales pour les communautés somaliennes dans lesquelles nous vivons. Ces histoires traitent d'expériences que les gens pensent être normales, mais ce sont des problèmes qui ne font pas l'objet d'une investigation approfondie. Si cela pouvait être recherché et diffusé, alors nous pourrions trouver des solutions pour l'avenir.
Les 6 femmes journalistes qui travaillent chez Bilan sont en charge de toutes les étapes de la production, du tournage à l'interview en passant par le montage. Leur couverture reflète ce que c'est que d'être une femme dans ce pays conservateur. Et elles font de nombreux profils de femmes somaliennes connues. Mais environ 80% des vidéos qu'elles produisent portent sur des sujets tels que la violence sexuelle et domestique, des sujets dont elles disent que les gens ont souvent trop honte de parler. Choukri Mohamed Abdi est l'une des journalistes de Bilan Media.
En tant que femme journaliste somalienne, nous encourageons et défendons les droits des femmes sans voix.
La Somalie n'a pas encore adopté son premier projet de loi sur les infractions sexuelles. Il est en préparation depuis près d'une décennie. Les auteurs sont rarement poursuivis et les victimes peuvent parfois faire face à des critiques. Il est donc difficile de faire parler les femmes. Fadouma Abdoulkadir Hassan est fan de Bilan Media.
C'est une excellente start-up pour la société, en particulier pour les femmes. Elle essaie de couvrir les besoins des femmes, car elle donne la parole aux sans-voix et se concentre sur les histoires de femmes vulnérables. Je pense que c'est vraiment important en ce moment.
Les journalistes de Bilan travaillent dans les bureaux de Dalsan, une station de télévision et radio populaire basée dans la capitale somalienne. Mais à Bilan, les choses sont faites un peu différemment. À nouveau, Nasrin Mohamed Ibrahim, rédactrice en chef de Bilan Media.
Bilan est différent des autres stations radio et télévision locales. Nous proposons des sujets très peu couverts et notre objectif est de sensibiliser aux problèmes sociaux. Nous nous concentrons également sur les vidéos filmées sur des téléphones mobiles. Au fur et à mesure que le monde se développe, nous nous attendons à ce que les caméras disparaissent. Nous voulons évoluer avec notre temps.
L'agence Bilan a été lancée en avril 2022 et l'équipe affirme qu'à ce jour, la réponse du public a été positive et encourageante. Dans un monde dominé par les hommes, ces femmes journalistes aspirent au changement.
Durement touchée par la flambée mondiale des prix des céréales, la Tunisie, qui importe 66% de ses céréales consommées, veut réduire sa dépendance. Elle continue d'importer du blé pour son pain, mais vise l'autosuffisance en blé dur, ingrédient essentiel de l'alimentation dans le Maghreb, pour les couscous et les pâtes dont les Tunisiens sont les seconds consommateurs du monde derrière les Italiens. Les agriculteurs au nord de la capitale Tunis sont toutefois pénalisés par du matériel délabré et un manque de financement. Récit de Nani Talani.
Dans son champ des plaines ensoleillées de Sebalet Ben Ammar, au nord de Tunis, l'agriculteur Mander Matali contemple une étendue d'épis de blé dur qui se courbe avant de démarrer sa vieille et bruyante moissonneuse-batteuse, susceptible de le lâcher à tout moment. Mander Matali en appelle à l'aide du gouvernement.
Nous demandons à l'État de prendre en considération la situation des petits agriculteurs afin de les aider à changer ce matériel qui est très cher. Le petit agriculteur ne parvient pas à acheter du matériel comme les machines ou tracteurs. Il préfère louer pour une année ou la laisser en jachère jusqu'à ce qu'elle ne soit plus ensemencée. Sincèrement, cela deviendra une terre abandonnée. Pourquoi ?
Remplacer sa moissonneuse-batteuse, même sur le marché de l'occasion, coûterait quelque 150 000 euros, une somme inaccessible pour de nombreux petits agriculteurs tunisiens. L'unique solution, une bonne politique agricole gouvernementale. De nouveau, Mander Matali.
S'il y a une volonté de l'État, une politique agricole de l'État, nous, les petits agriculteurs, nous pouvons augmenter la production de 50 à 90%. Si l'État nous subventionne au niveau du matériel, des pièces détachées, sur l'ammonitrate, les insecticides.
L'homme, comme de nombreux autres agriculteurs qui peinent à trouver ou acheter des pièces de rechange, vit dans la hantise d'une panne mécanique majeure qui se traduirait par la perte de la totalité de sa récolte. Or, une aide de l'État pourrait positivement changer la donne, comme l'explique Saïda Beldi du ministère tunisien de l'Agriculture.
Si l'État participe un peu à l'achat des outils agricoles et des intrants, qui sont deux facteurs qui peuvent augmenter la production, cela incitera les agriculteurs à se développer. Il faut encourager l'agriculteur. Si cette année il sème 10 hectares, l'année suivante il en sèmera 20.
La Tunisie compte environ 3000 moissonneuses-batteuses, dont 80% sont vieilles et très gaspilleuses, ce qui représente un important manque à gagner, reconnaît Fatène Kamassi, chef du cabinet du ministre de l'Agriculture. Elle assure aussi que son ministère prévoit de soutenir les coopératives agricoles pour acheter des moissonneuses-batteuses à usage collectif et aider les agriculteurs à se procurer de meilleures semences, à obtenir une assistance technique et des prêts garantis par l'État.
Les deux piliers, c'est le conseil et le financement. On doit fournir le financement à un niveau de financement qui permet d'acquérir les intrants, les produits, tout ce qui est travail de la terre, ça coûte cher, donc le carburant coûte cher, tout est devenu cher pour l'agriculteur.
Depuis avril, le gouvernement tunisien a dévoilé une série de mesures pour améliorer la situation dans l'espoir d'atteindre la pleine autosuffisance en blé dur d'ici 2023.
Washington, la voix d'Amérique.
L'aggravation de la sécheresse dans l'ouest des États-Unis a entraîné de nouvelles restrictions sur l'utilisation de l'eau en Californie du Sud. Dinia Doulot nous explique de Los Angeles comment les autorités appliquent ces nouvelles restrictions et comment certains jardiniers s'adaptent. Le récit est d'Arzuma Compaoré.
Les pelouses vertes et luxuriantes sont la marque de fabrique de nombreux quartiers de Californie. Mais après des années de sécheresse, une grande partie du comté de Los Angeles limite l'arrosage de ces pelouses à seulement deux fois par semaine. Ici, dans le district municipal Water de Las Virgenias, les résidents ne peuvent activer leur arroseur qu'une fois par semaine, car la région ne dispose pas d'eau souterraine locale. Ricky Clark, associé aux affaires publiques, explique que le rationnement est nécessaire car plus de 70% de l'eau du district est utilisée à l'extérieur.
Pour les clients dont l'adresse se termine par un nombre pair, leur jour désigné d'arrosage, c'est le mardi. Et pour nos clients dont l'adresse se termine par un nombre impair, c'est le jeudi. Ils ont tous droit à 8 minutes par jour, par station.
Le personnel du district fait respecter les règles en contrôlant qui arrose et quand. Les contrevenants reçoivent d'abord des avertissements, puis ils paient des pénalités. Si les infractions se poursuivent, leur approvisionnement est réduit à 1 gallon par minute. Kayson Gilmer, représentant du service clientèle du district, a mis au point le limiteur de débit.
L'évier de la cuisine ne fera pas vraiment la différence lorsque le limiteur est en place. Dans la douche, par contre, on peut ressentir la différence. Vos douches ont généralement un débit de 2,5 gallons par minute. Donc, le débit y est un peu plus faible. Mais vous pouvez toujours vous doucher. Vous pouvez toujours cuisiner. La vie intérieure est gérable avec ça. À l'extérieur, ce petit trou ne vous donnera pas assez de débit pour pouvoir mettre en marche votre système d'irrigation.
Certaines personnes s'éloignent de l'arrosage extérieur systématique. Sarah Larivière a acheté sa première maison il y a 1 an avec l'idée de supprimer la pelouse verte existante et de créer son propre espace rempli de fleurs sauvages et de plantes indigènes tolérantes à la sécheresse.
J'ai fait énormément de recherches pour savoir où je pouvais trouver des plantes qui se développent dans le comté de Los Angeles sans beaucoup d'eau. Je suis allée à la Theodore Payne Native Plant Foundation. Ils ont une pépinière et des cours. J'ai suivi un cours pour comprendre comment arroser les plantes indigènes et j'ai passé beaucoup de temps à regarder les plantes indigènes là-bas.
Madame Larivière a utilisé une remise californienne pour le remplacement du gazon pour couvrir le coût de l'installation de son nouveau jardin résistant à la sécheresse. Les restrictions d'arrosage n'ayant pas de fin en vue ici, certaines personnes déterminées à conserver leur pelouse verte les voient jaunir.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seloudia, à la mise en onde de Georges Léonard Sagno et à la console Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.